Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous, l'émission dédiée à l'actualité de la métropole toulousaine. Nous y évoquons souvent les grands projets que mène Toulouse Métropole sur son territoire et ce dans tous les domaines. Il se trouve que nous sommes pile à la moitié du mandat en cours en ce printemps 2023, le deuxième consécutif sous la présidence de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Son premier mandat a été marqué par un certain nombre de réalisations et le lancement de plusieurs projets. Le deuxième a commencé au moment de la première période de confinement et a été soumis aux aléas et aux contraintes de la crise sanitaire pendant près de 2 ans. Depuis 1 an, ce sont les conséquences de la guerre d'Ukraine et de la hausse des tarifs de l'énergie que doit affronter la collectivité métropolitaine. Cette fin avril est l'occasion de faire un bilan à mi-mandat de la politique et des actions menées par Toulouse Métropole depuis 3 ans, des projets en cours et de leur avancement. Beaucoup d'entre eux conditionnent l'avenir de notre territoire et vont changer le visage de la métropole toulousaine à l'horizon 2030 dans un contexte de fort développement démographique qui ne se dément pas. Voilà le sujet et même les sujets de cette émission. Et qui est mieux placé que l'actuel président de Toulouse Métropole pour faire un bilan à mi-mandat ? Jean-Luc Moudenc est l'invité de cette émission. Bonjour monsieur le maire président et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur les ondes de Radio Présence.
Bonjour et merci de votre invitation. Je suis heureux d'être à nouveau dans les locaux de Radio Présence.
Avant de parler du mandat actuel et de faire un bilan à mi-parcours avec vous, je pense qu'on peut rappeler les réalisations du mandat précédent, celui de 2014-2020, ainsi que les projets qui ont été lancés durant cette période et qui, pour certains d'entre eux, sont toujours en cours.
Oui, exemple, le Grand Matabio, la transformation du quartier de la Gare. On avait un quartier de la Gare qui avait beaucoup vieilli, qui était même déclinant sur le plan de la qualité des logements. Et donc là, les choses sont en train de se transformer. On a quasiment détruit les immeubles insalubres et indignes, en vérité, de l'avenue de Lyon. La gare elle-même est en cours de transformation et de modernisation. Ça sera fini au mois de septembre. On va dimensionner la gare Matabio pour pouvoir recevoir la LGV, puisque ça c'est un sujet dont on parle à Toulouse depuis plus de 30 ans, qui n'arrivait pas à aboutir et qu'on a réussi à mettre sur les rails, c'est le cas de le dire. Donc effectivement, voilà un projet au long cours, bien sûr, mais on a démarré des acquisitions foncières il y a 15 ans déjà. Les règles de droit doivent être respectées, donc ça prend du temps. Et on a choisi, il y a quelques semaines, l'aménageur de l'avenue de Lyon, l'emblématique avenue de Lyon, avec un vrai quartier, des logements de catégories différentes, du logement social, du logement en accession à la propriété, une résidence intergénérationnelle, des équipements publics, et puis la grande nouveauté, ça va être des arbres et des petits squares sur une avenue qui n'en comptait pas un seul. C'est un exemple de la transformation de la ville.
Et de la végétalisation que vous aviez souhaité lors du mandat précédent, qui s'est aussi concrétisée par le Grand Parc Garonne.
Oui, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé de la nécessité de végétaliser et de rafraîchir la ville à l'occasion de l'été caniculaire de 2022 qu'on a vécu. Bon, ben nous, on n'a pas attendu 2022. Et effectivement, on avait enclenché toute une dynamique nouvelle avec une ambition d'une dimension que Toulouse n'avait jamais connue. Lors du mandat précédent, 2014-2020, on a augmenté de 10% la superficie des espaces verts toulousains. Et puis c'est dès 2019 que j'ai pris la décision de lancer un plan qui s'appelle le plan 100 000 arbres. L'idée, c'est qu'on soit capable de planter 100 000 arbres à Toulouse entre 2020 et 2030, ce qui veut dire qu'on multiplie par 3 le nombre d'arbres plantés. C'est un effort considérable. À l'heure où je parle, il y a 35 000 arbres qui ont été plantés depuis le début du mandat en cours.
Les priorités du mandat actuel, qui court donc jusqu'en 2026, lesquelles avez-vous définies ?
Il y a 3 priorités, avec une idée. L'idée, c'est de dire, bon, voilà, Toulouse se développe, c'est de toutes les métropoles de France la plus attractive. Hein. Je ne sais pas si les Toulousains le savent, mais la ville de Toulouse, c'est la grande ville de France qui gagne le plus d'habitants et qui crée le plus d'emplois. D'ailleurs, les deux phénomènes sont liés. Totalement liés. depuis un quart de siècle maintenant. Et l'ambition que nous avons, c'est bien sûr de permettre le développement, parce que malgré tout cela, il y a quelques 40 000 chômeurs à Toulouse, et moi j'essaie de ne pas les oublier, donc il faut continuer le développement, mais il y a un autre développement qu'on doit accélérer et accentuer, c'est le développement de la qualité de la vie. Autrement dit, je défends l'idée d'une ville, d'une métropole, qui ne se contente pas d'avoir un développement quantitatif, mais qui veut avoir et qui se donne les moyens d'avoir un développement qualitatif. Et donc un développement qualitatif, ça veut dire d'introduire des éléments qui amènent du mieux, qui rendent la vie plus agréable au quotidien. Plus de sécurité, plus de propreté, plus de nature en ville, plus de services publics de proximité. Et pour ça, on a la chance à Toulouse d'avoir une entité sur laquelle on peut s'appuyer. Cette entité, c'est le quartier. Toulouse aujourd'hui compte 515 000 habitants. Quand on dit ça, c'est un chiffre qui peut nous sembler quelque peu effrayant. Et donc la bonne méthode, la bonne porte d'entrée pour faire en sorte qu'au-delà de ce chiffre, on amène de la qualité de vie au quotidien en se mettant à la place des Toulousains et en faisant des choses avec eux. On a accentué tous les dispositifs de concertation citoyenne. Ben, c'est le quartier, c'est la porte d'entrée pour justement, par quartier, mettre plus de nature en ville, mettre plus de services publics de proximité, mettre davantage de moyens de transport, parce que qui dit développement dit nécessité de se déplacer davantage, donc on doit développer les moyens de se déplacer en privilégiant ceux qui, bien sûr, ne produisent pas davantage de pollution, puisqu'on cherche davantage de qualité de vie. Donc ça veut dire plus de transports en commun, plus de pistes cyclables, plus de places pour les piétons.
On va y revenir bien sûr au cours de cette émission. 515 000 habitants à Toulouse et plus de 800 000 dans la métropole toulousaine. Merci pour ces premières indications qui posent les bases de notre discussion. Nous allons poursuivre dans quelques minutes puisque dans les médias, nous allons faire un petit détour par l'actualité métropolitaine. Toujours en compagnie de Corinne Saint-Félix comme chaque semaine. Métropole et vous, l'actu. Ce document est annoncé depuis quelques mois. La ville de Toulouse vient de lancer une consultation en vue de l'élaboration de son code de la rue.
Oui, la mairie a lancé une grande consultation afin de doter fin 2023 la municipalité d'un code de la rue. Il doit permettre d'apaiser les conflits entre tous les modes de déplacement. Ce projet est destiné à faciliter une cohabitation apaisée de tous les usagers de l'espace public. Le code de la rue sera réalisé à partir du vécu et des expériences des usagers. Pour participer, il faut s'inscrire sur la plateforme jeparticipe.metropole.toulouse.fr. Outre les propositions des habitants issus de la consultation, il sera enrichi du passage de nouvelles zones de la ville à 30 km/h qui deviendront la règle partout où cela sera possible. Le 50 km/h sera réservé aux grands axes et ce dès 2024. À ce jour, 53% des rues de la ville sont déjà à 30 km/h. L'objectif est de parvenir d'ici 2026 à 80% des rues de Toulouse limitées à 30 km/h. D'ici fin 2023, ce code de la rue verra donc le jour sous la forme d'un livret et de courtes vidéos de sensibilisation. Il sera accompagné d'une campagne de communication pour en rappeler les grands principes. La police municipale jouera également son rôle de contrôle et de verbalisation pour faire respecter ce code de la rue.
L'environnement, la santé et la qualité de vie sont trois des grands enjeux du mandat en cours. L'alimentation et l'agriculture sont des moyens de les tenir. En ce sens, pour une alimentation locale saine, durable et accessible à tous, la métropole a signé la charte d'engagement du projet agricole et alimentaire 2023-2026.
Et jeudi 13 avril, les participants au Conseil se sont retrouvés pour échanger entre les acteurs du territoire sur les enjeux et actions en lien avec le projet agricole et alimentaire métropolitain, avec une attention particulière portée à la préservation de la ressource en eau. Objectif, préserver donc et renforcer les conditions de production agricole sur le foncier, les emplois agricoles ou encore l'eau, mais aussi renforcer une restauration collective proposant des produits locaux, sains, durables et de qualité, renforcer les filières de proximité et sensibiliser les habitants aux bénéfices d'une alimentation durable. Les 34 premiers signataires, dont 21 communes métropolitaines, se sont donc engagés pour une alimentation locale, saine, durable et accessible à tous.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information métropolitaine qui, j'en suis certain, Jean-Luc Poudin, amène quelques réactions de votre part ou des compléments d'information peut-être. Le code de la rue, ça je crois que c'était vraiment une nécessité parce que les relations entre les différents usagers, les utilisateurs des divers modes de déplacement ne vont pas en s'arrangeant, il me semble.
Ben oui, on a, il faut le dire, hein, une tendance dans notre société qui est sans doute minoritaire, heureusement, mais de certains qui... ne respectent pas les autres, ne pensent qu'à eux, se mettent parfois d'ailleurs en danger eux-mêmes. Et donc dans une ville qui se développe à ce point, avec une partie de rues, notamment dans le centre historique, qui sont étroites, il faut organiser la cohabitation la plus harmonieuse possible entre les différents modes de déplacement. Moi, je ne suis pas partisan de l'interdiction totale de la voiture, c'est une idée défendue par mes opposants. Par contre, je suis partisan de donner la priorité aux modes de transport alternatifs à la voiture. Et puis après, je fais confiance à mes concitoyens pour faire le bon choix au bon moment. Donc, le code de la rue, c'est vraiment le message du respect. D'abord, en rappelant des règles de droit, parce qu'au fond, tout le monde ne connaît pas les articles du code de la route. Donc l'idée, c'est de les présenter de manière simple, pratique, accessible, et non pas avec toute l'âpreté du langage juridique, de mettre en avant des bonnes pratiques, et puis aussi, et ça va être la grande nouveauté, de partir du vécu des Toulousains. Donc on va organiser plusieurs réunions publiques dans plusieurs quartiers dans les mois à venir, et l'idée, c'est que les Toulousains puissent s'exprimer. Et donc ainsi parleront des usagers des transports en commun, des automobilistes, des cyclistes, des piétons. Et donc là, on ne sera pas dans la règle de droit, on ne sera pas forcément non plus dans un aménagement proposé par les services techniques qui ont une compétence indispensable. On sera dans une expertise d'usage, c'est-à-dire des témoignages extrêmement concrets des citoyens. Et ce que j'espère, c'est qu'à l'issue de cet exercice, donc grosso modo au début de l'année 2024, on serait capable de publier des outils, à la fois, pourquoi pas, un livret imprimé, mais aussi des outils numériques qui permettront de faire passer les bons messages pour mieux se déplacer et en faisant en sorte qu'en se déplaçant mieux, les autres se déplacent mieux aussi.
Et puis ça permettra de pacifier un petit peu les relations entre, comme je le disais tout à l'heure, les divers usagers de la rue et des divers modes de déplacement. La charte d'engagement du projet agricole et alimentaire 2023-2026, document important aussi parce que la qualité de vie, ça passe aussi par la qualité d'alimentation.
Absolument. Et là-dessus, on fait un effort considérable. Toulouse, parmi les grandes villes de France, est celle qui compte le plus de marchés de plein vent. On en a 77 au total. On en a créé pas moins de 18 depuis que je suis élu, et on en crée tous les jours, quasiment, dans les nouveaux quartiers en particulier, ou dans des quartiers plus anciens. L'idée, c'est de faire en sorte que les Toulousains bénéficient des circuits courts et que le lien se fasse entre le monde urbain que nous représentons et le monde rural qui est à notre porte. Ce sont deux mondes qui parfois s'ignorent. Certains aimeraient qu'ils s'affrontent. Moi, je préférerais qu'ils dialoguent et qu'ils coopèrent. Et donc, mon ambition, c'est de faire en sorte que les Toulousains puissent profiter de plus en plus de la richesse incroyable de produits alimentaires et gastronomiques qu'ils ont à leur disposition, là, tout autour de la grande ville, en Haute-Garonne, dans les départements proches de nous, plutôt que de s'approvisionner avec des produits dont on ne sait pas, lorsqu'on est citoyen de base, vraiment d'où ils viennent. Et quand ils viennent de plus loin, c'est aussi des produits qui finalement produisent du carbone également. Donc, à partir du moment où on essaie de localiser les choses, c'est un petit peu gagnant-gagnant. Nous, on sert 35 000 repas par jour, à la fois aux gamins dans nos cantines, et puis des restaurants seniors solidaires que j'ai voulu développer, pour mettre fin à l'isolement de nos aînés dans différents quartiers de Toulouse, ben nous avons une part considérable au-dessus de ce que prévoient les textes de loi en ce qui concerne les produits bio ou les produits qui ne sont pas forcément bio, mais qui sont des produits locaux, labellisés, tracés, des produits authentiques et de qualité. Manger bien, c'est un élément de la santé et donc c'est un élément fondamental de la qualité de vie.
Merci pour ces réactions et ces compléments d'information à l'actualité métropolitaine. Nous allons maintenant pouvoir reprendre nos échanges en revenant au sujet principal de cette émission, le bilan à mi-mandat du président de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de ce numéro de Métropole et vous, toujours avec Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, nous avons évoqué précédemment les crises successives de la Covid et de la hausse des tarifs de l'énergie. On sait qu'elles ont eu des conséquences sur certains projets métropolitains, mais aussi pour les habitants de la métropole, pour les entrepreneurs, pour les commerçants. Comment la collectivité métropolitaine y a-t-elle répondu ?
C'est vrai qu'on a commencé ce mandat dans des circonstances totalement inhabituelles. Il y a eu cette crise sanitaire avec la violence que je n'ai pas besoin de rappeler. Et la métropole, tout comme d'ailleurs les municipalités de la métropole et en premier lieu la mairie de Toulouse, ont dû s'adapter, c'est-à-dire prendre des initiatives qu'elles n'avaient jamais eu à prendre jusqu'ici. Et je crois qu'on a réussi à être, je dirais, dans la réactivité en peu de temps. D'abord, il a fallu soutenir le tissu économique, dans la limite de nos compétences et de nos possibilités, bien évidemment. En particulier, nous avons allégé un impôt que paient les entreprises, ça s'appelle la CFE, et cette cotisation foncière des entreprises, nous l'avons allégée pour plus de 32 000 professionnels. Ça représentait d'ailleurs un manque à gagner de plus de 22 millions d'euros dans le budget de la métropole. On a également organisé un abattement de 15% sur la taxe foncière pour les petites entreprises, les entreprises qui font moins de 400 mètres carrés. Ça a concerné 9000 entreprises. Et puis après, je parlais tout à l'heure des marchés. Sur les marchés publics, d'habitude, les petits entrepreneurs, hein, par définition, ce sont des petits entrepreneurs, les petits producteurs, les petits vendeurs, ils payent une redevance pour l'occupation du domaine public, de même que les cafés, les restaurants payent une redevance pour occuper le domaine public, les terrasses. Là-dessus, on a mis en place une exonération qui a été une des plus généreuses de France, puisqu'on a exonéré ces professionnels-là, qui sont la plupart du temps des PME ou des très petites entreprises, des TPE, on les a exonérés pendant un an. Alors ça a fait un manque à gagner pour la collectivité, mais je ne regrette pas l'avoir fait, parce que ça a évité à des petits entrepreneurs, ceux qui sont le plus fragiles, qui ont le moins de surface financière, le moins de possibilités, ça leur a permis de vivre dans cette période-là et puis de rebondir ensuite et de ne pas voir disparaître ce tissu.
Autre priorité de votre mandat, qui était déjà une priorité du mandat précédent, c'est l'aspect environnemental, la végétalisation, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables. On a parlé du projet Grand Parc Garonne. Il y a deux autres projets, il me semble, qui sont importants, qui sont à la fois des projets urbains et des projets environnementaux. C'est le Grand Parc Canal et le projet de l'île du Ramier.
Oui, effectivement. Alors, vous avez parlé des énergies renouvelables. C'est vrai que entre 2014 et 2020, il n'y avait pas la crise énergétique, hein, il n'y avait pas la crise géopolitique du fait de l'agression russe contre l'Ukraine, avec les conséquences sur nos tarifs d'électricité et de gaz. Mais on a été dans l'anticipation. Effectivement, en 6 ans, on a doublé la production d'électricité verte, que ce soit avec de l'hydroélectricité. On a créé une deuxième usine hydroélectrique sur l'île du Ramier. On a introduit quelque chose qui n'existait absolument pas à Toulouse, c'est-à-dire le photovoltaïque. Et puis on a développé le réseau de chaleur, c'est-à-dire la capacité à récupérer de la chaleur produite par la combustion des déchets qui ne sont pas recyclables. Et grâce à tout ça, on a doublé la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire que on a fait en 6 ans ce que toutes les municipalités toulousaines précédentes avaient fait en 1 siècle. Et donc on continue dans cette dynamique. Et sur la nature en ville, c'est vrai que nous avons, lors du mandat précédent, préparé un projet qui se développe et se réalise maintenant, dans le mandat actuel 2020-2026, qui est la transformation, en fait la renaturation de l'île du Ramier. L'île du Ramier, elle a été dominée par des constructions successives, et en particulier le parc des expositions, qui n'a cessé de s'étendre jusqu'à devenir pas très beau, il faut bien le dire, assez hétéroclite du point de vue architectural, et puis surtout trop petit, trop étriqué pour accueillir des grands congrès. Et donc nous avons construit, et c'est un des acquis du mandat précédent, nous avons construit un nouveau parc des expos qui s'appelle le MIT et qui se situe pas très loin de l'aéroport de Blagnac. Ça nous permet de capter de nouveaux congrès, et Toulouse, qui était au 7e rang en termes de capacité à accueillir des congrès en France, est devenue la 3e ville. Donc ça a libéré cet espace de l'île du Ramier. Et donc ce que j'ai voulu, c'est que à la place, on ne construise pas autre chose, mais qu'on renature. Et donc il y a tout un processus qui a été mis en place, d'abord pour déconstruire le vieux parc des expos, en récupérant 95% des matériaux divers et variés qui le composaient depuis 70 ans. Et puis on travaille les sols, on renature les sols, ils ont été imperméabilisés pendant 70 ans, vous vous rendez compte. Et là on est en train de construire deux passerelles, piétons-cycles, en séparant les piétons et les cycles. L'une qui va permettre aux habitants de la rive droite d'aller directement sur l'île, l'autre qui va permettre la même chose pour les habitants de la rive gauche. Et ça sera prêt au mois de novembre prochain. Et en même temps, on va déclencher la plantation de quelques 3000 arbres sur le site. Donc les Toulousains vont avoir d'ici quelques années, en 2025, un poumon vert à leur disposition, au cœur de la ville, accessible gratuitement à tous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Au fond, l'île du Ramier renoue avec ce qu'elle était au début du XXe siècle. On appelait ça le parc toulousain à l'époque. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit le jardin des Toulousains, de tous les Toulousains, que ça soit un immense îlot de fraîcheur.
Alors, concernant les mobilités, qui est un des grands enjeux, évidemment, du mandat actuel, mais qui le restera, puisque la démographie fait que, est-ce que vous estimez que les priorités et les grands projets du mandat actuel sont bien dans les temps que vous aviez prévus pour tenir vos engagements ?
D'abord, je tiens à dire une chose, c'est que Toulouse est en avance en matière de mobilité. On a transporté en 2022 179 millions de passagers tout au long de l'année. C'est le deuxième réseau de France, je mets Paris à part, bien évidemment, alors qu'en réalité, nous sommes la cinquième agglomération de France. Donc, en proportion, nous sommes en avance. Pour autant, comme nous sommes les plus dynamiques sur le plan du développement démographique et économique, malgré cette avance, il y a encore des besoins. J'en suis conscient. Et donc, nous avons le devoir de développer d'autres projets pour faire en sorte que les transports en commun soient toujours plus importants. Nous avons créé 10 lignes Linéo, c'est des bus rapides, qui ont transporté pas moins de 24 millions de personnes l'année dernière. Ça représente 130 000 voyageurs chaque jour. Ça remplace les bus classiques parce qu'il y a plus de fréquences, il y a des horaires élargis, donc forcément, ça attire davantage de voyageurs, hein, grosso modo 30 à 40% de plus. Nous avons, lors du mandat précédent, doublé la ligne A du métro, qui est la plus fréquentée. Et puis nous avons préparé ce grand projet de ligne C, qui est un immense projet. Ça a pris du temps parce que la ligne C, en longueur, ça représente l'addition de la ligne A et de la ligne B. Donc c'est un projet très puissant, qui va desservir prioritairement les zones d'emploi, Airbus, l'aéroport, Montaudran, le Grand Matabio en plein développement, également la Bège et tout le campus Enova de la Bège. Et nous avons démarré ce chantier il y a quelques mois maintenant, en décembre dernier. J'ai dû le décaler à cause de la crise Covid. Effectivement, vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème de soutenabilité financière avec les pertes de recettes qui nous ont affectées du fait de la crise Covid. Donc, pour ne pas compromettre le projet, pour le maintenir dans son intégralité, j'ai, non pas retardé le projet, mais étiré le calendrier. Et donc, le chantier s'achèvera à la fin de l'année 2028 et ça permettra à un emploi sur deux de la grande agglomération toulousaine d'être directement desservi par le métro. Or, nous savons bien que le métro, de tous les modes de transport alternatifs à la voiture, c'est celui qui est le plus efficace pour attirer des personnes et les inciter à mettre de côté leur véhicule particulier. Donc, nous avons ce grand projet. Nous avons également un autre projet que l'on vient de lancer, qui sera prêt un petit peu plus tôt, qui sera prêt en 2027. C'est le prolongement de la ligne B actuelle du métro. On appelle ça la connexion ligne B, parce qu'à un moment, elle rejoindra la ligne C. En tout cas, elle va desservir la Bège et tout le campus, tout le Sicoval, dont on connaît le dynamisme économique. Et puis, nous avons également développé de cyclables. On a pris une décision très très forte, c'est de doubler le budget. Ce qui fait que le budget consacré au vélo à Toulouse atteint un volume qu'il n'a jamais atteint jusqu'ici, qu'aucune équipe municipale ou métropolitaine n'avait mis en place. On a créé quelques 92 km d'itinéraires cyclables, de pistes cyclables lors du mandat précédent. Et là, on se lance dans l'élaboration de ce qu'on appelle le rêve, c'est-à-dire le réseau express vélo, avec 14 lignes qui vont permettre des liaisons en continu entre la ville-centre et les villes de la périphérie, de la métropole et même au-delà, donc de grandes continuités cyclables avec un confort, une sécurité supérieure aux pistes cyclables ordinaires. Alors ça va prendre évidemment plusieurs années, mais les choses sont enclenchées.
Je reviens à la troisième ligne de métro. Là, vous maintenez l'échéance de 2028. Or, certains de vos opposants, à la mairie de Toulouse ou à la métropole, pensent, eux, que ce sera plus tard. Certains parlent de 2030 et ils annoncent un surcoût supérieur encore à celui que vous avez dû chiffrer par rapport à la hausse des tarifs de l'énergie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Effectivement, j'ai des opposants qui critiquent de manière continue la ligne C. Vous savez, j'avais présenté cette ligne C pendant ma campagne électorale en décembre 2013. Et forcément, comme c'est un très grand projet, un projet d'une ampleur exceptionnelle comme Toulouse n'a jamais mené, n'a jamais connu, forcément, ça a mis du temps à être élaboré. Et puis après, malheureusement, on a été percuté par la crise Covid. Donc effectivement, les choses, comme je l'ai dit en toute transparence, ont été retardées pour être préservées. On aurait pu faire à la va-vite, mais à ce moment-là, on aurait eu un problème de soutenabilité. Donc, effectivement, mes opposants, depuis 9 ans, et même plus maintenant, ils pilonnent systématiquement, ils critiquent systématiquement ce projet, sans proposer d'ailleurs autre chose d'équivalent. Alors oui, c'est vrai, il y a un surcoût, et là aussi, j'étais très transparent, nous l'avons, avec Jean-Michel Latte, le président de Tisséo, nous l'avons détaillé, au mois de décembre dernier, vous le savez, il y a une hausse des prix de l'énergie. Vous le savez, il y a aussi une hausse et même une rareté de certains matériaux.
Matières premières et matériaux, bien sûr.
Au niveau mondial. Et tout ça s'est traduit par le fait que quand les entreprises nous ont proposé leurs prestations pour les marchés publics de travaux pour le chantier, effectivement, il y a eu un dépassement. Et ce dépassement, il est de 525 millions d'euros avec une réserve, y compris donc la réserve, je dirais, de provision pour aléa, qui est une centaine de millions. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de faire quand même le projet, de ne pas pour autant augmenter les impôts des Toulousains, ni même d'augmenter de manière exorbitante le tarif des transports pour ne pas faire retomber cela sur les habitants et les usagers au moment où eux-mêmes ont des problèmes de pouvoir d'achat avec le retour de l'inflation. Et on a décidé effectivement de développer une stratégie de gestion financière pour supporter cela. Et puis j'ai également au plus haut niveau avec la première ministre début février, j'ai entamé un travail avec l'État de manière à ce que l'on puisse avant la fin du chantier qu'on puisse trouver des ressources nouvelles de manière à absorber ce surcoût.
Alors, vous en parlez un peu, vous êtes très à l'écoute des habitants et vous avez fait de la participation citoyenne une des valeurs fortes de votre mandat en cours. Comment cela se manifeste-t-il concrètement ?
Alors d'abord, on a renforcé toutes les instances de participation. Ça fait des années qu'il y a des bureaux de quartier, des concertations par quartier. Nous les avons étoffées. On a introduit aux côtés des associations de quartier classiques et dont le rôle est indispensable, on a introduit la possibilité pour des citoyens qui ne sont pas forcément membres d'une association d'avoir eux aussi leur mot à dire. Et donc on a organisé système de participation, de tirage au sort, de candidature spontanée, ce qui fait qu'on a élargi le dispositif de concertation. On a lancé une grande opération, c'est « Mes idées pour mon quartier », Et la volonté que j'ai eue, c'était de dire aux Toulousains, voilà, les meilleurs connaisseurs de votre quartier, par définition, c'est vous. Alors nous, les élus, on a des idées, bien sûr, pour votre quartier. On a la chance d'avoir à nos côtés des services dont la compétence permet, là aussi, de formuler des projets. Mais si vous aussi, vous amenez votre regard, on va trouver d'autres idées. On va enrichir tout ça. Et on va faire en sorte que les réalisations de la municipalité ou de la métropole dans votre quartier vont coller davantage encore à vos préoccupations du quotidien. Ça a été un formidable succès. Il y a eu plus de 11 000 votes. Et quand je compare le nombre de votes que nous avons eu sur cette opération au nombre de votes que d'autres grandes villes, y compris Paris d'ailleurs, ont enregistré pour des opérations de participation citoyenne du même type, ben je me rends compte qu'en proportion, on a eu plus de participants. Donc je suis très heureux que les Toulousains aient répondu à cette main tendue. Et puis je leur avais dit aussi, lorsque l'on a démarré tout ça, je leur avais dit, à l'heure du réchauffement climatique, on doit accentuer et accélérer tout ce qui concerne la transition écologique de la ville. Et là aussi, donnez-nous vos idées. Et on leur a demandé, dans ces idées pour leur quartier, de privilégier des idées à impact écologique. Et nous avons été entendus, puisque à l'issue de tout le processus où les Toulousains ont voté, hein, ça s'est terminé à la fin de l'année 2022, ben, il y a 83 projets qui ont été choisis, répartis dans les différents quartiers de Toulouse. Et sur ces 83 projets, ben, il y en a 85 qui ont un impact écologique. Mais je le répète, l'écologie à notre manière, c'est-à-dire non pas une idéologie, mais des solutions pratiques au plus près de la vie des gens. Donc le choix du pragmatisme.
Il faut conclure ce numéro. Merci beaucoup Jean-Luc Moudingue d'en avoir été l'invité et merci d'avoir fait pour nos auditeurs ce bilan à mi-parcours de votre mandat actuel à la présidence de Toulouse Métropole. Il y a beaucoup de choses en cours dans cette métropole toulousaine qui attire toujours autant de nouveaux habitants chaque année. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.